Bonjour. Mais prenez donc place. Avancez, les places sont libres devant, je ne mords personne. David Porter est derrière son clavier, vous ne risquez rien. Installez-vous. Venez seulement. Ah voilà, là des courageux et des courageuses. Bravo. C'est vrai, je ne mords pas. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur comme ça. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue ce dimanche 5 novembre. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je suis vraiment très heureux que le dimanche existe. Déjà, numéro 1, le travail s'arrête. Et ça, c'est vraiment bien. Que le travail s'arrête. Un jour de repos, c'est vraiment très bien. Et il n'y a pas à avoir honte, hein. On s'arrête. Il n'y a pas à avoir de regrets, on n'a pas loupé quelque chose. Il n'y a pas à avoir d'inquiétude, l'exemple vient d'en haut. Le septième jour, Dieu se reposa. Et il y a encore mieux, ce dimanche, je vous souhaite la bienvenue pour un temps de culte. Et ça, le temps de culte, c'est top. Le culte, c'est le moment privilégié où ensemble, nous nous présentons devant Dieu. C'est le moment où je ne suis plus le fils de, le père de, le grand-père de, le petit-fils de. Non ? Ce n'est pas non plus mon rôle social, ce n'est pas ma profession, mon activité qui me définit, qui me donne mon identité. Le culte, c'est le moment où nous découvrons le regard que Dieu pose sur chacun de nous. Un regard qui nous permet de sortir de nos enfermements, un regard qui nous permet de grandir. Un regard qui nous donne notre vraie identité, celle de fille, celle de fils aimé de Dieu. On trouve dans le prophète Osée des images comme ça, qui disent « Quand tu étais jeune, dit le Seigneur Dieu, quand tu étais jeune, je me suis mis à t'aimer. » Et je t'ai appelé, toi mon fils, à sortir de l'esclavage, à sortir du pays de la servitude. C'est moi qui ai guidé tes premiers pas en te tenant par les bras. Je suis pour toi comme un père qui porte son petit enfant tout contre sa joue et qui se penche vers lui pour le faire manger. Je vous invite à prier. Éternel Dieu, merci pour Jésus-Christ, ton Fils. Merci parce qu'il nous a appris ton nom, notre Père. Merci de nous accueillir comme fils et filles. Et merci de nous donner cette fabuleuse dignité d'être tes enfants. Nous te prions pour nous te prions pour tous les jeunes rassemblés aujourd'hui à Genève, dans le cadre de Réforme Action. Envoie sur nous comme sur eux ton esprit et ouvre nos cœurs à ta parole. Pour aujourd'hui. Amen.
Dieu est monté dans son temple. Dieu est monté dans son temple. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au son du cœur, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu et roi du monde entier. chantez pour lui un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples, sur son saint trône et siège. Chantons à notre roi ce matin. Le roi, dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix. Ô Dieu, tu es grand. Chantons ensemble. l'agneau sur son trône.
Chers enfants, il est temps maintenant de rejoindre vos groupes qui vous attendent au rez-de-chaussée avec des moniteurs qui ont préparé quelque chose et vous allez, je crois, participer aujourd'hui à la confection des paniers de Noël. Des paquets de Noël, ouais, pas des paniers. Paniers, c'est autre chose. Des paquets de Noël, exactement. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos moniteurs. Amen. Deux lectures pour j'ai un problème avec ce micro. Deux lectures pour la prédication d'aujourd'hui et la prédication de dimanche prochain, mais on lit les deux déjà aujourd'hui. La première lecture est dans l'évangile de Luc au chapitre 23 à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il ralliait Jésus en disant « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui une inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le deuxième texte est dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, à partir du verset 25. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Voyez, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur et de Josès, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
Bonjour à chacun, chacune. Merci Michel pour ces deux lectures. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Deux paroles que Jésus a prononcé sur la croix. Et j'ai pensé évoquer ce dimanche et dimanche prochain en les associant ces deux paroles du Seigneur que nous venons de lire. Et j'ai pensé associer ces deux paroles surtout en raison du contraste entre elles et à cause du relief saisissant qui est donné de cette façon. À la fois, cette déclaration inattendue de Jésus aux brigands et cette question douloureuse de Dieu à Dieu, de Jésus le Fils de Dieu à Dieu son Père. Dieu qui demande à Dieu pourquoi. Si nous mettons en parallèle ces deux paroles, je vais avoir un petit souci de slide. Si nous mettons en parallèle ces deux paroles, nous avons le sentiment de nous trouver en quelque sorte face à deux sommets. Deux sommets. D'un côté, un sommet de proximité et d'accueil par les mots touchant par l'accueil inconditionnel de la grâce la plus gratuite que l'on puisse imaginer. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et de l'autre côté, un sommet de souffrance qui dépasse largement la capacité de notre compréhension. Par les mots de la plus indescriptible des solitudes, Jésus s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et remarquez que dans les deux textes que nous avons lus ce matin, alors que Jésus va vivre ces moments terribles d'isolement, il accomplit jusque-là encore, jusqu'à la dernière extrémité de sa vie, son rôle de sauveur et de bon berger. Il va chercher la brebis perdue dans les endroits les plus inaccessibles et les plus désespérés, jusqu'à la croix. Et là, Jésus va offrir aux brigands repentants le bien suprême, celui de sa présence. Tu seras avec moi dans le paradis. Et Jésus lui-même, le saint, le juste par excellence, le Fils entièrement soumis à la volonté du Père, va connaître la séparation jamais entrevue jusque-là, le sentiment de solitude totalement étranger à sa nature de Dieu et poussé jusqu'à l'insoutenable dans sa nature d'homme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il me semble que la méditation de ces deux paroles en deux temps, ce dimanche et dimanche prochain, la méditation de ces deux paroles devrait pouvoir nous aider à percevoir quelque chose de significatif sur la personne et le ministère de Jésus. Son amour pour nous, sa grâce, et par là, venir stimuler notre attachement au Sauveur. Pour ce matin, un sommet de proximité et d'accueil. Un sommet de proximité et d'accueil. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La réponse de Jésus aux brigands repentants a donné lieu à quantité de commentaires. Mais finalement, c'est la sobriété du récit qui doit faire travailler notre imagination. Luc est le seul à nous rapporter cet épisode-là. Et Luc est d'une concision plutôt déconcertante quant à la description de la démarche de cet homme cloué en croix. On aimerait bien pouvoir en lire un peu plus sur sa réflexion, sur ses connaissances, sur ses dispositions intérieures, sur ses sentiments dans les derniers instants de sa vie. On aimerait pouvoir en savoir un peu plus sur l'intégralité des paroles qu'il a prononcées. Mais le dialogue semble étonnamment raccourci entre Jésus et lui. Et on cherche en vain des mots un peu plus précis. Vous savez, une sorte de confession de foi, quelque chose d'un peu plus substantiel dans la bouche de ce brigand. Mais la pauvreté apparente de sa confession a justement le pouvoir de nous laisser à la fois perplexes et émerveillés. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Ce que l'on peut dire, c'est que le refus de révolte chez ce criminel, ce n'est pas juste de la résignation. Le refus de révolte chez ce criminel, c'est le choix abouti d'un sincère examen de soi, d'une honnête acceptation des faits. Un homme honnête, pour nous, dit-il, verset 41, pour nous, ce n'est que justice. Nous nous payons pour ce que nous avons fait. Nous recevons ce que nous avons mérité. Voilà donc un homme sur la croix dont on ne sait pas grand-chose, mais dont on sait qu'il est conscient de l'existence de Dieu. Mais pas seulement. Ce qu'il sait aussi, c'est que le Dieu dont il est conscient est un Dieu qui est juste, un Dieu qui est saint. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Et la condamnation des hommes est pour lui, dans son cas, l'accomplissement légitime de la justice de Dieu. Ce n'est que justice pour nous. Nous payons pour ce que nous avons fait. Voilà donc un homme qui reconnaît sa faute et le bien fondé de sa condamnation. On pourrait dire que ce n'est finalement pas grand-chose comme conviction. Mais c'est déjà beaucoup. Et c'est peut-être même la première démarche et la démarche la plus difficile dans un cheminement de foi. Reconnaître sa faute et le bien fondé de sa condamnation. Mais notre brigand ne s'arrête pas là. Et la demande qu'il adresse à Jésus est finalement révélatrice d'une foi véritable, d'une foi authentique, d'une foi profonde, d'une foi qui peut se passer de tout autre credo. On pourrait même parler de l'extraordinaire audace de sa demande. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Quelle audace! Alors que les chefs du peuple, que les docteurs de la loi, que les autorités romaines contestent avec force la qualité de sauveur et de messie de Jésus, le brigand, lui, reconnaît sa royauté. Et remarquez qu'il reconnaît une royauté qui dépasse le cadre de la vie terrestre. Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Pas juste maintenant. Pas juste un petit sauveur qui vient nous dépatouiller de nos problèmes. Pas juste un petit sauveur pour l'ici et le maintenant. Un sauveur qui se souviendra de nous quand il viendra régner. Il n'est pas interdit d'imaginer que cet homme a pu, peut-être une fois au moins, entendre les paroles du Seigneur quand Jésus parlait au peuple. Et finalement, il reconnaît son autorité in extremis. Et en même temps, au sujet de la foi de ce brigand, il est difficile d'en percevoir beaucoup plus. Mais Jésus, qui lui lisait les pensées secrètes des uns et des autres, a su voir dans le cœur de cet homme sa juste perception des choses et sa confiance. Une confiance apparemment inébranlable dans les tout derniers instants de sa vie, sans la moindre trace de doute ou d'hésitation. Et Jésus n'a qu'une réponse à une confiance comme celle-là. Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Après avoir demandé à son père le pardon pour ceux qui le mettaient à mort et qui n'étaient pas conscients de la portée de leur acte, Jésus offre maintenant, sans délai, à celui qui se reconnaît pécheur, une pleine entrée dans la maison du Père. Jésus, qui avait promis quelques jours auparavant à ses disciples qu'il allait leur préparer une place, Jean 14, verset 2, déclare maintenant à cet homme inconnu jusqu'ici que sa place à lui est déjà prête pour l'accueillir. Ce texte-là, il me parle du merveilleux pont de la grâce qui raccourcit la distance entre la demande du brigand et la réponse de Jésus. Alors que la demande du brigand envisage un exaucement futur, et peut-être très loin dans le futur pour celui qui l'exprime, « Quand tu viendras régner ?» La réponse de Jésus, c'est celle d'un don qui est immédiat, immédiat. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette réponse du Seigneur au brigand repentant est, à mon sens, l'une des démonstrations les plus éclatantes de ce qu'offre la grâce, de ce qu'est le salut en Jésus-Christ. Un don personnel, sans autre motif que la décision de celui qui le donne. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est le cadeau le plus inestimable qui ne peut s'accepter que par la confiance et quelle que soit la situation de celui ou de celle qui le reçoit. Parce que la grâce elle-même n'a absolument aucune limite. Ce ne sont pas les excès ou le caractère extrême du péché des hommes qui peut empêcher Dieu d'agir. Rien n'est impossible à Dieu. Le bon brigand, comme on l'appelle parfois, est un homme qui n'a absolument rien à faire valoir pour recevoir une telle promesse. Il n'a rien à proposer en échange. Il n'a rien à offrir. Il ne peut rien démontrer, rien prouver. Il ne pourra même pas s'engager sur le chemin de la foi. Et dans ce sens, cet homme restera jusqu'à la fin de notre histoire humaine la preuve par excellence de l'absence de tout mérite dans la comptabilité de Dieu. le salut qu'offre Jésus-Christ est le salut pour celui ou pour celle qui ne peut plus rien. Il est l'accueil éternel et immédiat par Dieu de celui, de celle qui est rejeté par les hommes. Enfin, en promettant aux brigands l'entrée immédiate au paradis, Jésus démontre également qu'au-delà des apparences, au-delà de la souffrance, au-delà de la mort même, il y a une réalité glorieuse et déjà présente. Cet homme est en train de mourir dans des souffrances atroces. Et Jésus, qui ne le guérit pas de ces souffrances-là, lui ouvre par contre tout grand la porte du ciel et de l'intimité éternelle avec lui. De la croix au paradis. C'est le passage inouï que permet la grâce divine. Comme elle permet cette même grâce de passer dans notre vie sans aucune autre transition que la foi, de la condamnation au pardon. Dieu nous offrant sa plus grande bénédiction, là où nous méritions sa plus grande condamnation. Si cette parole de Jésus au brigand est un sommet de proximité et d'accueil, c'est enfin parce qu'elle n'est pas le geste d'un quelconque héros mythique, un super héros invincible qui traverserait l'espace pour venir arracher un instant la pauvre victime dans un tourbillon de lumière et de puissance. Cette parole, c'est celle d'un sauveur qui s'est rendu vulnérable. C'est celle d'un sauveur qui est immobilisé sur la croix. C'est celle d'un sauveur qui sauve en partageant exactement la terrible condition de celui qu'il vient sauver. Jésus peut dire cette parole d'accueil au brigand parce qu'il est en train d'accomplir ce qu'il faut sous ses yeux pour rendre possible son accueil par Dieu. En faisant donc cette promesse inespérée, Jésus entraîne cet homme coupable mais repentant dans sa victoire. Tu seras avec moi, mais en se chargeant tout seul du combat. Lui seul paye le prix en s'engageant dans une voie on ne peut plus solitaire. Jésus sauve et il prend sur lui pour rendre le salut possible. Il me faut conclure. On ne se connaît pas très bien encore. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de brigand criminel parmi nous ce matin. Et quand bien même, j'espère qu'aucun de nous n'est à quelques instants de rendre son dernier souffle dans des souffrances indescriptibles. Mais on peut se regarder honnêtement, objectivement, et reconnaître avec simplicité que pécheurs, nous le sommes tous et toutes, de multiples manières. Nous pouvons le reconnaître. Et à partir de là, dire qu'en Jésus seul, nous trouvons la liberté de nous accepter tels que nous sommes, sans orgueil, tout en nous remettant en question sans être écrasés. Il nous accueille, il nous sauve Il nous attache à lui. Il nous ouvre les portes de l'intimité éternelle avec Dieu. Celui qui connaît le pire de moi est celui qui cependant m'aime le plus. Dieu n'a pas besoin de nos grandes déclarations de vertu, mais seulement de nos confessions de faiblesse. La grâce de Dieu est plus grande que ton plus grand regret. Il nous offre sa plus grande bénédiction là où nous méritions sa plus grande condamnation. Parce que la condamnation, il la prend sur lui pour qu'il nous reste à nous la bénédiction de la présence de Dieu. Chacun, chacune, nous avons besoin, je crois, de la grâce conquérante de Dieu qui en Jésus nous propose un véritable salut, une profonde restauration et l'intimité éternelle avec Dieu. Nous le savons, sinon nous ne serions pas là ce matin. Nous sommes d'une culture judéo-chrétienne. La plupart d'entre nous, nous avons fait un catéchisme, nous avons fait des camps, nous avons participé à des heures d'études bibliques, des heures et des heures de culte. Nous le savons, nous le chantons, mais est-ce que nous l'entendons encore? Est-ce que moi, j'entends encore que je ne peux pas m'en tirer seul, que j'ai besoin du pardon et de la grâce de Dieu, et que ce pardon et cette grâce non seulement me relèvera, mais me tiendra debout? L'entendons-nous encore? Ou préférons-nous essayer de nous en tirer seul? Dimanche prochain, nous méditerons la deuxième parole lue tout à l'heure. Cet immense cri du Seigneur qui est le cri de l'ultime abandon, l'ultime déchirement pour lui-même. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce sera dimanche prochain. Amen.
Il est vrai que c'est un peu un mystère pourquoi Dieu a choisi de nous aimer, pourquoi Jésus a choisi d'aller jusqu'à la croix. Et comme Philippe vient de dire, on est là ce matin, on peut se réjouir que Dieu nous a aimés. On peut justement accepter cette grâce qui nous est offerte. Et je vous invite à réfléchir à ça aussi par les paroles qu'on va chanter maintenant. Peut-être un chant que vous ne connaissez pas très bien, mais « Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis. Il est ton Dieu. Il est notre Dieu ce matin, celui qui nous offre le pardon. » Si vous ne le connaissez pas, vous voulez peut-être l'écouter pendant qu'on le chante et ensuite vous pouvez nous joindre.
Sa paix s'élave nos pieds. Ô mystère infini, l'homme et Dieu réunis, fléchir le genou, car il est ton Dieu.
Que nous pensons à la croix, il est vrai que ce sont des choses très graves, très sérieuses, de penser à ce que Jésus a souffert pour nous. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus mort. Aujourd'hui, lorsqu'on se souvient de Jésus, c'est le même Jésus qui aujourd'hui règne dans les cieux, qui s'est manifesté à nous. Et donc, lorsqu'on vient à la scène, on pense aussi à ce Jésus ressuscité. C'est grâce au fait qu'il est ressuscité que nous sommes là ce matin. Et donc, je vous invite de chanter « Sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus ».
Sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus.
Ok, nous allons le rechanter. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est aussi pas connu. Si vous l'avez jamais entendu, vous pouvez plus dire ça maintenant parce que vous venez de l'entendre. Assez facile, c'est deux fois donc le début, et puis ça se monte un petit peu, si vous me suivez.
Sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Sang efface toute condamnation. ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus.
Je vous invite à prendre place et nous allons avoir un temps de prière ouverte pour remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a souffert pour nous, mais aussi pour le fait qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus grâce à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Prions ensemble. Seigneur, tu es l'agneau qui ôte nos péchés. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu par toi, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par toi que nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. C'est par toi, Jésus, que nous avons pu par la foi avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, tu es mort pour nous, pécheurs, au moment fixé par Dieu. si difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien, mais notre Dieu, notre Père, tu nous as prouvé à quel point tu nous aimes. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par ton sacrifice, Jésus, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. Père, nous étions les ennemis de Dieu, mais tu nous as réconciliés avec toi par la mort de ton Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec toi, serons-nous sauvés par la vie de ton Fils. Merci notre Dieu. Rien ne peut sauver mon âme.
Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pourrais-je, je le réclame, rien que le sang de
pour ce temps de Sainte-Cène, nous voici devant la table. Et devant la table, nous confessons que nous ne sommes pas indemnes de toute faute, mais qu'au contraire, nos vies sont marquées par le mal et que souvent par nos paroles et nos actes, nous propageons des virus de mort autour de nous. Devant la table, nous reconnaissons que la sortie de l'esclavage, la sortie de la maison de servitude, que notre libération du mal a un prix, parce qu'il n'y a pas de liberté sans prix à payer. Avec le pain rompu, avec le vin partagé, nous rappelons la mort du Seigneur Jésus qui paye le prix de notre libération. Son corps brisé, son sang versé sont les signes de la nouvelle alliance que Dieu lui-même nous offre. Et en mangeant ce vin, en mangeant ce pain, en partageant ce vin, nous affirmons notre volonté de laisser la vie de Jésus s'épanouir dans nos vies personnelles, de laisser la vie de Jésus irriguer la vie de notre Église. Je lis le récit de l'institution dans l'évangile de Marc. Pendant le repas de la Pâque, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez, ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Jésus leur dit, « Ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne boirai plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers.
Nous prions. Cher Seigneur, en célébrant ce repas, nous voulons nous souvenir de ta grâce confondante. Merci pour le grand échange, ta vie, la nôtre sauvée. Merci pour ton amour nourrissant. Nous nous réjouissons de t'appartenir et nous nous réjouissons de ce jour où nous partagerons comme promis ce repas avec toi dans le paradis. Que ton nom soit béni. Amen.
Voilà, nous allons passer dans les rangs avec les paniers et les plateaux. Au centre des plateaux, il y a des coupes qui sont de couleur et qui ont du jus de raisin. Si vous désirez la coupe, faites signe à Philippe qui vous l'apportera.
Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis. C'est toi qui nous as permis de vivre avec toi, parce que tu nous as montré ton amour, tu nous as tant aimé que tu as envoyé ton Fils, qui a pris notre punition, nos péchés sur lui, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons pardonnés. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce ce matin, nous voulons te remercier pour ton salut. Merci que nous sommes rendus justes, non pas à cause de nous, non pas à cause de nos efforts, mais à cause de ta grâce, à cause de ta mort et de ta résurrection. Merci Jésus que tu es vivant aujourd'hui, que tu vis dans notre vie, dans notre cœur, que nous puissions Seigneur partager cet amour aussi avec le monde autour de nous, qu'ils puissent voir la réalité de toi, Jésus vivant, dans notre vie, dans notre manière Seigneur de te servir. Merci parce que tout vient de toi. La grâce, c'est toi qui nous l'a donnée. Nous sommes reconnaissants, nous voulons t'en remercier ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Pour le salut, il n'y a rien à acheter, mais pour la vie de l'Église, il est nécessaire d'avoir de l'argent. Et on sait que l'argent, c'est une puissance, mais nous venons de faire allégeance à notre Dieu et nous sommes dès lors libres, libres de donner et d'avoir la possibilité, par l'offrande, de démontrer cette liberté.
Que tu nous donnes. Nous te remercions de pouvoir, au travers de cet argent, participer à la construction de ton Église, à la présence de ton royaume sur terre. Amen. Oh. C'est les annonces. Voici, alors, ça, c'est une reprise de notre programme d'église. Une activité de plus proposée par le Fil d'Argent, notre groupe d'aînés, une rencontre de prière avec deux axes particuliers qui vous sont ici mentionnés, mardi à 14h30, ici à l'église. Jeudi 9 novembre, le Papa Chaudeau d'Hercet au Forum de Mérin. Il y a à l'extérieur des flyers que vous pouvez prendre pour inviter vos amis. Il y a également des affiches A3 que vous pouvez, si vous avez des endroits où vous savez que vous pouvez les déposer, vous pouvez en prendre une. Utilisez-les à bon escient. Claudie, encore quelques suppléments d'informations ?
Oui, donc j'ai eu un contact avec Alain. Il m'a signalé qu'il se réjouissait de venir à Mérin, mais qu'il avait pas mal d'attaques. Alors il nous a demandé vraiment de prier pour cette rencontre de jeudi et que vraiment on soit derrière lui. Et il sent qu'il y a beaucoup de... Enfin, il m'a pas dit de quelle nature, mais je propose même, est-ce qu'on a la possibilité de le remettre en ce moment ? Peut-être que deux ou trois peuvent prier pour lui, pour sa venue ici à Mérin, et que ce soit vraiment un sujet de joie et un sujet de ressources pour tout le monde. Alors je vous propose de, peut-être deux ou trois parmi nous, prions pour lui. Oui, Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre Alain avec son message. Seigneur, ce qu'il m'a partagé au niveau de ses attaques, je ne sais pas de quelle nature, mais Seigneur, protège-le. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ de le protéger et que Seigneur, que sa venue à Mérin soit vraiment une source de joie, une source de un témoignage vraiment pour ceux qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, que oui, ce soit une soirée vraiment bénie de ta part. Nous ne voulons pas le faire pour toi, mais nous voulons que tu sois avec nous. Nous voulons que tu sois dans le spectacle avec lui. Amen. 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 Je vous remercie. Juste encore pour la kermesse, donc j'ai encore quelques places disponibles. Donc si vous voulez venir aider pour l'accueil ou pour les chapeaux ou comme être conseiller après s'il y a des questions par rapport à la foi, il y a toujours des possibilités de venir vers moi pour vous inscrire. Je vous remercie.
Voilà, et on reste dans le concret. Donc je vous explique en deux mots, si vous ne le savez pas, le système de nettoyage du bâtiment repose sur environ 13 groupes de 4 personnes qui se relayent au fil de l'année. Il y a vraiment un problème ce vendredi parce que le groupe qui travaille avec Christine Strubin, deux personnes sont empêchées, elles se retrouvent seules pour faire tout le bâtiment, ce qui est beaucoup. Et nous souhaitons qu'il y ait 2-3 personnes pour lui donner un coup de main, si vous pouvez vous annoncer auprès de Claire Lise. Si vous êtes aussi intéressé par ce service concret pour la vie de l'Église, vous pouvez aussi auprès de Claire Lise vous annoncer.
Est-ce qu'on peut montrer qui est Claire Lise ?
Ouais, montrons qui est Claire Lise. Voilà. Ouais, c'est parce que je la connais, je m'excuse. Voilà, l'action Paquet de Noël se poursuit, dernier délai, dimanche prochain pour déposer les articles. Et puis la confection ce mercredi et mercredi prochain, 14h, 16h30. Et mardi 14 novembre, nous soutenons l'action Big Questions organisée par les GBU de Genève dans l'enceinte de l'Uni. Et nous la soutenons en préparant des sandwichs qui sont nécessaires pour soutenir les auditeurs qui participeront à ces 4 conférences, 3 conférences je crois. Il y a besoin encore de 3 personnes.
Ah, de nouveau, les infos sont auprès de Claire-Lise. C'est vrai que tu veux te lever de nouveau. Voilà, samedi 18 novembre, il y a One, la journée des églises évangéliques en Suisse romande. Vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous pouvez découvrir cette journée sur oneevent.ch. C'est vraiment remarquable. Oui. Oui, oui, c'est très complet. Allez voir sur le site, là. Oui, oui, il est très, très bien fait. C'est un site super.
Les animations pour les enfants sont super. Ça sera animé par notamment Johan Rochat, qui était membre de notre église et qui est très investi dans
la. Voilà. Et puis, vendredi 17 novembre, il y a le colloque, c'est-à-dire notre assemblée générale, à 20h. Un ordre du jour vous a été envoyé par email, si vous êtes dans les listes. Ou bien vous trouverez l'ordre du jour, le PV du colloque précédent, dans des enveloppes à la sortie. Merci d'y faire attention. Et je donne la parole encore à Claude.
Vous voyez cette plante là? Je vais cacher derrière ce cahier. Vous me direz, ça me fait une belle jambe. Dans ce cahier, il y a la possibilité pour ceux et celles d'entre vous qui pense à quelque chose qui ferait de bien de changer par rapport à nos rencontres de célébration du dimanche matin qui s'appellent des cultes. Si vous avez une idée de changement utile, on vous demande de mettre une proposition d'amélioration pour les cultes de Mérin. Ça va? C'est individuel, vous mettez votre nom ou vous ne mettez pas votre nom, mais je préfère que vous mettiez votre nom. Et vous, quand vous proposez des changements, vous ne mettez pas des noms de personnes. Ça va? Ça va? C'est dit? Pourquoi? Parce que entre janvier et avril, nous aurons des ateliers bibliques qui vont traiter des célébrations du culte dans l'Israël ancien, dans le début de la Réformation, mais aussi au début de la vie chrétienne après le Christ. D'accord? Et on veut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour faire bien ce qu'on est appelé à faire, c'est-à-dire pour la gloire du Christ et de son règne qui vient. Ça va? Donc, c'est individuel, ça sera là jusqu'au début janvier. Et vous avez vu où je le cache? Voilà pour l'annonce. Merci.
Voilà. Noël en plein vent. La suite de l'histoire, Johan.
Alors, je reprends la présentation de la semaine passée, que certains ont déjà vue, pour Noël en plein vent. Donc, Noël en plein vent, c'est un spectacle de rue dans lequel on va retracer la naissance du Christ. Et puis, ça tombe assez bien avec les prédications, c'est deux sommets à franchir. Le premier sommet, c'est le sommet de la proximité. C'est l'occasion de rejoindre Mérin. Et ça, c'est une bonne chose, puisque c'est un des slogans de notre Église. Le deuxième sommet, il est un peu plus difficile, c'est le sommet de la souffrance. Parce qu'il faut s'inscrire, il faut se motiver, il faut faire un sacrifice pour rejoindre l'équipe de Noël en plein vent. Et ça, par contre, c'est un sommet à franchir, mais c'est quelque chose de positif parce qu'on sait dans quel but on le fait. Et puis, et je vous encourage vraiment à y participer. Alors, je reprends. Voilà, bon, je pense que c'était un peu vite, non? Tac, non, c'est bon? Voilà. Donc ça va se passer sur la place du village, juste au-dessus du parking, en face de la place, la salle Verchères. Au niveau des autorisations, j'ai encore eu un téléphone avec la commune, il n'y a rien de bloquant, simplement qu'ils sont un petit peu submergés, ils sont en train de traiter les demandes de novembre actuellement, et ils sont encore loin d'y arriver. Donc ils m'ont dit, il n'y a rien de bloquant, mais ça va arriver. Voilà. Juste pour rappeler les dates, donc c'est le vendredi 15 décembre à 19h et le samedi 16 à 19h aussi. Donc là, on a vu. Il y a plusieurs éléments. Donc, il y a bien sûr, vous verrez sur, à l'extérieur, il y a un panneau sur lequel on peut s'inscrire dans différents secteurs. Première chose, c'est la partie acteurs. Certains se sont inscrits, d'autres se sont annoncés auprès de Thomas, qui est responsable de cette partie-là, pour différents rôles, et notamment les hommes en noir, qui est le. Alors, c'est un peu étrange, les hommes en noir, mais c'est justement les personnes qui vont donner beaucoup d'animation à ce spectacle, parce que c'est les personnes qui vont entourer les acteurs et puis faire un peu bouger la foule pour que ce spectacle soit un petit peu itinérant et qui va donner vraiment du punch à tout ce spectacle. Les répétitions, alors il y a deux éléments, il y a justement ces fameux hommes en noir où c'est un rôle un peu plus important parce qu'il faut apprendre à bouger. Et Thomas sera, en tant qu'acteur, sera là justement pour expliquer et apprendre comment faire les choses. Donc ça commence déjà ce mardi, certains savent déjà parce qu'ils ont été contactés directement par Thomas. S'il y a deux, trois questions par rapport à ces dates ou ces rôles-là, vous pouvez venir vers moi après le culte. Et puis ensuite, il y aura des répétitions tous ensemble pour voir un petit peu comment ça va bouger sur cette place, tout ce monde. Donc il y en a une qui est prévue le samedi 25 novembre, une le 1er décembre. Alors on verra peut-être qu'il faudra un peu ajuster parce qu'il y a la course du Duc, sauf erreur. Et certains se sont inscrits. Le dimanche 10 décembre, après le culte. Et puis la dernière, une répétition générale qui serait le mercredi 13 décembre, juste avant le vendredi. Oui, oui. Parce qu'on a besoin, aussi d'avoir des spectateurs pour voir un petit peu comment ça va bouger. Parce qu'en fait, ce n'est pas un spectacle où les gens se posent à un endroit et puis regardent une scène. Ça va être une scène qui va un peu bouger sur cette place. Et du coup, d'où l'utilité de ces hommes en noir qui vont un peu faire bouger cette foule et prendre la chose dynamique. Il y aura aussi une chorale, et c'est Catherine Meyer qui en est responsable. Sauf erreur, vous avez reçu un mail, en tout cas pour la plupart. Vous pouvez vous inscrire. Il y a aussi la fiche à l'extérieur où vous pouvez vous inscrire. La partie accueil, et c'est Claude Parniconi qui en est responsable. Là aussi, vous pouvez vous inscrire à l'extérieur pour accueillir, écouter, répondre, orienter. Et puis, on a aussi besoin de personnes pour intercéder pendant ce moment de spectacle. Il y a aussi de quoi faire une petite collation après le spectacle pour que ça puisse se prolonger dans la bonne ambiance. Et là aussi, vous avez une fiche à l'extérieur et... C'est Claire Lise que vous connaissez bien maintenant. qui sera responsable de cette partie-là. Et puis une partie logistique avec Roger Anninger, tout ce qui est donc logistique, support, la technique. Quelques-uns d'entre vous se sont déjà annoncés, certains se sont inscrits, vous pouvez encore vous inscrire. C'est aussi l'occasion pour des petites aides, et ça c'est très volontiers d'avoir aussi des petites aides, le moment, le jour J. Parce qu'on a toujours besoin de personnes ici qui peuvent nous aider. Voilà, et puis en dernier lieu, c'est juste de rappeler, parce qu'on a aussi dit avant, que tout ça on le fait dans un objectif d'église, mais pour notre Dieu et pour sa gloire. Voilà, merci beaucoup.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Et je vous invite à écouter les deux derniers versets de la lettre de Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, avant tous les temps, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Que ce Dieu vous bénisse et vous accompagne pendant la semaine qui vient. Amen.